voilà, on revient avec ce que vous disiez sur la formation de la soirée. Donc, c'est cette opération en cours sur ce navire qui a d'ailleurs différents noms. Ça y est, j'ai oublié son nom, le Pushpa, mais qu'on pourra
appeler aussi. Oui, parce qu'il a tellement changé de nom.
Il a tellement changé aussi de pavillon. Et bien pourtant, c'est un navire de la flotte fantôme russe, un navire sur lequel eh bien, des militaires français sont montés ce soir. Deux personnes sont en garde à vue puisqu'il était au large des côtes de Saint-Nazaire.
Oui, voilà. Alors, à la fin des fins, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, derrière l'espèce de maskirovka russe pour essayer d'exporter son pétrole, ce qui est très important pour la Russie. Parce que aujourd'hui, cette fameuse flotte fantôme, c'est quand même plusieurs centaines. Le président de la République disait 800, ce que disent les services de renseignement à peu près, navires qui aujourd'hui vendent le pétrole russe essentiellement à la Chine, à l'Inde et à la Turquie. C'est 70% de l'exportation du pétrole russe et c'est 40% de l'économie russe. Et l'effort de guerre russe passe par là. Et là, pour la première fois, effectivement, un petit coup d'arrêt a été mis. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, ce navire, pas trop qui... La France a fait très attention de rester justement dans le cadre du droit international pour cette intervention. C'est pas trop qu'il était contre l'embargo, c'est qu'il n'appliquait pas les règles de la navigation, puisqu'il arborait un pavillon du Bénin, alors qu'il n'a jamais été enregistré, enfin en tout cas le Bénin disait qu'il n'était pas enregistré chez lui, ce qui a donc permis d'utiliser le fameux article 110 qui permettait de faire une visite, et comme son commandant, quand il est arrivé en proximité des eaux territoriales françaises, s'est refusé à répondre aux injonctions de la Marine nationale et du procureur de Brest, eh bien, des commandos marines ont fait une opération de ce qu'on appelle du contre-terrorisme en mer. Là, il n'y avait pas de terroristes à bord en soi.
Commando, oui.
Mais ils sont montés à bord pour faire ce qu'on appelle une visite et donc pour prendre contrôle du navire et obliger le commandant à répondre aux règles de droit et au procureur sur d'où ils venaient, quel était leur pavillon, parce qu'en fait on n'a pas le droit de se balader sans pavillon, sinon ça veut dire qu'on est des pirates. Donc voilà, les pirates, on les aborde. Donc c'est ça qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que ça montrait deux choses, et après j'ai fini. Un, les capacités militaires françaises à le faire, là c'est un geste technique, et la volonté politique dans un cadre important qui est en ce moment la réunion de l'Union européenne, justement pour répondre à toutes les provocations russes pour essayer de nous déviser, la volonté politique de répondre aux provocations russes.
Bruno Jeudy, vous voyez cette volonté effectivement de répondre. On rappelle qu'Emmanuel Macron est au Danemark pour un Conseil européen de la défense. Effectivement, vous voyez cette fermeté dans la réponse.
Oui, c'est un changement de ton. Mine de rien, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose de secondaire. La France, Emmanuel Macron, depuis déjà plusieurs mois, hausse le ton, parle d'une confrontation face à la Russie, parle d'une menace réelle, essaie de mobiliser l'opinion sur le fait que la Russie mène une guerre hybride, une guerre informationnelle. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les têtes de cochon, les cercueils devant l'église russe à Paris, ou encore les pochoirs sur le monument de la Shoah. Tout ça fait partie de cette guerre hybride menée par la Russie et ses alliés. Mais là, aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est répondre concrètement, c'est dire stop. Le message qui est envoyé, c'est maintenant, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. On vous voit. En fait, on voit ce que vous faites. Ces bateaux servent à contourner les sanctions, et donc la France dit non, comme la Pologne et l'Estonie ont dit non il y a quelques jours après le survol de leur espace aérien. Tout ça s'inscrit dans une stratégie globale des Européens qui, un, restent unis pour défendre l'Ukraine face à la Russie, deux, ont bien l'intention de répondre, et à mon avis l'avertissement qui a été et les actes qui ont suivi peuvent très bien se traduire par des choses beaucoup plus importantes si jamais les Russes voulaient s'aventurer avec des avions au-dessus des espaces aériens.
Voilà,
des pays,
on va revoir la déclaration du président de la République qui dit rien n'est exclu en termes de riposte si un avion russe viole l'espace aérien européen. Ça veut bien dire que c'est une mise en garde.
C'est une mise en garde et c'est quand même aujourd'hui un passage à l'acte. Et j'allais dire, sans doute, parce que si jamais les autorités russes décident d'aller plus loin dans cette espèce de guerre hybride, de harcèlement des opinions européennes et des capitales européennes, parce que l'idée c'est de déstabiliser tous les pays occidentaux et notamment les pays européens qui soutiennent l'Ukraine. Eh bien, Poutine aujourd'hui a reçu un carton jaune qui peut se transformer en carton rouge dans d'autres pays, parce que ce que dit Emmanuel Macron, c'est aussi ce que pensent beaucoup des responsables voisins des pays voisins.
Non, juste une précision, c'est que ça se passe en plus aujourd'hui et puis demain où il y a cette réunion donc à Copenhague. Donc c'est aussi un signal qui est envoyé montrant la force européenne, en tous les cas montrant que les Européens sont tous un peu mobilisés dans ce sens-là. Et, vous voyez, ça tombe pas n'importe quel jour.
Et tout ça après que aussi Donald Trump, interrogé la semaine dernière, et répondu lors d'une conférence de presse que s'il fallait abattre un des avions qui a survolé l'espace, je ne sais plus si c'était estonien ou polonais, a dit estonien. Il faut l'abattre. Donc on voit bien que il y a
ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui la solidarité atlantique, qui avait pu être mise en cause par certaines déclarations de Donald Trump ou la crainte cet été d'un rapprochement avec Poutine. Aujourd'hui, on voit que finalement, on a un retour des Américains dans le jeu de la solidarité transatlantique. Et on l'a vu très clairement, parce que Donald Trump le fait à sa façon, et on sait que bon, il y a toujours l'inquiétude du fait qu'il est un poil girouette par-ci par-là, mais que là, ça a été quand même gravé dans le marbre par l'intervention du général qui est le commandant américain des troupes de l'OTAN en Europe, qui a dit, lui, dans les termes plus construits, exactement la même chose, c'est-à-dire les règles d'engagement ont changé, on l'a fait savoir aux Russes, elles sont durcies, donc ils arrêtent de nous tester pour éviter qu'ils aient à en subir les conséquences.
Oui, et la stratégie de Poutine d'essayer, évidemment, dans chaque pays européen, de favoriser des partis, des mouvements, des leaders qui demain pourraient être des alliés, évidemment, pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce que l'Europe reste unie. Et ça, c'est quand même une surprise très importante. On voit bien que l'arrivée de Trump aurait pu faire bouger les Italiens et d'autres. Eh bien non.